Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est parti pour la deuxième tranche de ce programme. Eh bien, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de la promotion de la masculinité positive. Eh bien, c'est quoi la masculinité positive? Eh bien, nous aurons des réponses tout à l'heure avec nos invités, Madame Pascaline Zamunda, activiste des droits de la femme, et Paul Mboula, éducateur à la vie. Vous voulez intervenir? Appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Marcel Ngombo assure la coordination. Tati Mapoukou est à la réalisation. Mimi Kindou à la technique au micro. C'est Jody Daniel Kachama.
Oh, Mario.
Tout le monde saille.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est d'un Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Bien, la ville de Kinshasa a abrité dernièrement la conférence des hommes sur la masculinité positive. 5 chefs d'État et les gouvernements ont pris part à ces assises qui ont eu pour thème galvaniser la masculinité positive pour mettre un terme au fléau de la violence en Afrique. Les différents acteurs se sont penchés sur des questions liées au genre et ont pris l'engagement de mettre en place des actions devant contribuer à éliminer les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Alors c'est quoi la masculinité positive? Comment la promouvoir? Nous avons en ligne Madame Pascaline Zamunda, activiste des droits des femmes et puis elle est coordonnatrice du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégré des jeunes, voilà, intégral des jeunes, CREIJE en sigle. Madame Pascaline Zamunda, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse à la masculinité positive. La première question, évidemment, est de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par masculinité positive?
Voilà, la masculinité positive est un concept qui vise à montrer le rôle positif que l'homme doit jouer dans les rapports qu'il a avec la femme. La femme, c'est au sens général, hein, pas seulement la femme comme partenaire de mariage, mais ça peut être la femme comme collègue de travail, ça peut être la femme comme enfant, ça peut être la femme vraiment de façon générale dans les rapports sociaux que les hommes et les femmes entretiennent dans la société. Et c'est un concept qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour montrer aux hommes qu'ils ont un rôle positif à jouer en tant que partenaire, contrairement à certaines coutumes rétrogrades qui plaçaient l'homme dans une position d'antagoniste vis-à-vis de la femme et qui était considérée comme un frein pour le développement ou l'épanouissement de la femme. Et dans cette lutte pour l'éradication des violences sexuelles et violences basées sur les genres, l'homme devient un acteur clé, un acteur très important. Raison pour laquelle il faille positiver les rôles que l'homme doit jouer et n'est pas toujours le mettre dans la position de quelqu'un qui abuse des auteurs des violences, et étant donné que l'homme lui-même il est le produit de la socialisation. Ça veut dire que l'homme est aujourd'hui, il est le fruit de l'éducation qu'il a reçue de la société, par la socialisation, par beaucoup d'autres faits liés à la culture et à la coutume.
Bien, et certains parlent du concept he for she. Est-ce que c'est toujours la même chose?
Bon, pas nécessairement. Vous savez, ces concepts, il y en a qui sont porteurs de beaucoup d'informations et d'autres qui sont plutôt symboliques. Les he for she, effectivement, ça rentre dans les cadres de la promotion de la masculinité positive, dans le sens que on veut que l'homme se positionne à côté de la femme comme un partenaire, qu'ils évoluent ensemble, mais pas toujours que l'homme cherche à être devant ou cherche à occuper une position pour écraser la femme, et que ce soit un homme qui est favorable à l'épanouissement et à l'évolution, donc un soutien pour la femme.
Bien, alors pouvez-vous donner des exemples de ce rôle positif que l'homme peut jouer à côté de la femme?
En tout cas, c'est à tous les niveaux, comme je venais de le dire, comme vous le savez, les rapports sociaux des hommes et des femmes, c'est dans la société, c'est à tous les niveaux, c'est dans la famille, comme vous le savez, selon les partages des rôles. On a les rôles reproducteurs, où l'homme et la femme interviennent d'ailleurs, on a les rôles producteurs, et puis on a les rôles communautaires. On veut que ces rôles-là soient exécutés de façon complémentaire entre l'homme et la femme. Et par exemple, au niveau du rôle reproducteur, qui ne concerne pas que la reproduction au sens strict, ça veut dire concevoir un être humain, non, mais tout ce qui est autour, ça veut dire faire le ménage, entretenir la famille, tout ça comporte des rôles au niveau du ménage qui voudraient, et la logique voudrait que l'homme aussi soit impliqué. Parce que dans notre culture, souvent, on pense que tout ce qui concerne le ménage, ça veut dire prendre soin de la famille, chercher de l'eau, préparer la nourriture, tout ça, c'est un travail pour les femmes, alors que c'est faux. Et donc, cette masculinité positive veut que l'homme s'implique, se sente concerné, en commençant au niveau de la famille à participer aussi à part entière à tout, à la vie de la famille, à la vie communautaire. Et c'est là, vous allez voir qu'il y a une certaine logique d'intervention, parce que si l'homme aide la femme au niveau de la famille, ou si l'éducation prévoit déjà d'initier les enfants, filles et garçons, à ces travaux ménagers, vous allez voir que d'un côté, ça va alléger la tâche aux enfants, filles, pour leur permettre aussi de s'affirmer dans la société, parce qu'ils vont bien jouer, ils vont bien jouer leur rôle producteur, parce que le rôle producteur, c'est le rôle qui implique de faire un travail pour lequel on peut attendre un rendement, ça veut dire faire un travail professionnel. Et souvent, quand dans le rôle reproducteur, les femmes se retrouvent plus impliquées dans ce rôle-là, ça les empêche d'être actives dans le rôle de production. C'est pour cela que quand on demande cette complémentarité, c'est pour permettre à ce que si l'homme et la femme se complètent au niveau déjà de ces rôles de reproduction, ça veut dire ce partage des tâches ménagères, ça va faciliter à la femme aussi de se positionner par rapport à son rôle de production. Et ça va permettre à ce que l'homme comprenne que le rôle de la femme n'est pas seulement au niveau de la reproduction, mais aussi au niveau de la production. Et ce partenariat va se refléter aussi au niveau de la production. Et c'est ainsi de suite aussi au niveau communautaire. Tout le monde doit rendre service à sa communauté à travers les différents engagements communautaires, comme nous le voyons dans les associations, dans les différents regroupements sociaux. Mais aussi, un autre exemple, au niveau, par exemple, professionnel, aujourd'hui, il y a des collègues, on se retrouve dans un service, il y a les hommes et les femmes, mais il y a toujours une sorte de complexe où les hommes pensent toujours que les femmes ne devaient pas se mettre à leur niveau, qu'elles étaient comparées à leurs femmes qui sont à la maison, qu'elles n'avaient pas des ordres à leur donner. Non, la masculinité positive veut que l'homme n'ait pas ce complexe de supériorité, mais qu'il reste vraiment ce partenaire-là qui comprend la femme avec ses besoins spécifiques, parce que ça aussi c'est très important de dire que même si on est dans le concept où on veut promouvoir les droits de tout le monde, mais il y a ce qu'on appelle des besoins sexuels spécifiques qui sont liés par exemple à la femme elle-même ou bien à l'homme lui-même. Donc il y a pas mal d'exemples, mais qui sont souvent regroupés dans la compréhension de ces tableaux avec les différents rôles, les rôles de la reproduction, comme je l'ai dit, les rôles de la production et les rôles communautaires, et où on veut que le travail se fasse de façon équitable et égalitaire pour permettre à ce que chacun puisse atteindre son épanouissement.
Bien, donc vous voulez dire qu'il y a dans certains milieux professionnels des hommes qui n'acceptent pas d'être dirigés par une femme?
Bon, dire d'être dirigé, bien sûr que cela existe ou bien ça a existé de façon rigide. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a encore des indices de ces complexes-là où, à un certain niveau, il y a des complexes, il y a des conflits liés au fait que l'homme conçoit mal le fait que ce soit la femme qui lui donne des ordres. Parce que pour lui, il pense que la femme, c'est celle qui est chez lui à la maison. Et il considère les rapports que lui effectue avec sa femme les rapports d'autorité. Et il voit mal que ce soit une femme qui lui donne ses ordres au niveau du travail, et ça biaise un peu le climat du travail, d'où est la femme qui se sent un peu mal à l'aise, parce qu'elle se dit qu'elle n'est pas vraiment à l'aise à donner des ordres aux hommes qui lui opposent une certaine résistance, juste parce des faits qu'elle est une femme. Et c'est encore des réalités dans certains milieux, surtout on déplore cela en milieu politique, où on trouve qu'il y a tout ce qu'on appelle encore les plafonds de verre, qui sont des obstacles invisibles qui empêchent les femmes même à accéder à certaines fonctions, parce qu'on estime que ce sont juste des femmes qui ne devaient pas occuper ces postes-là et pour dominer. Il y a même des préjugés, des stéréotypes qui démontrent que non, quand c'est la femme, et va être peut-être très dure, et va vouloir montrer que généralement on ne leur donne pas le pouvoir, et quand on lui donne, il va peut-être en abuser.
Oui.
Donc il y a beaucoup de préjugés dans ce sens-là.
Mais il y a aussi, revenons dans la famille, il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme travaille ou fasse le business. Mmh. Ils se disent toujours, ouais, bon, elle risque de me tromper, tout ça, alors je préfère qu'elle reste à la maison, s'occuper du ménage, s'occuper des enfants.
Mmh. Exactement, c'est ce que je dis. Il faut rentrer dans ces schémas où on répartit à trois les rôles. Donc là, ces rôles de reproduction qui constituent tout ce qui se passe au niveau de la famille, notamment prendre soin des enfants, prendre soin de ménage et d'autres personnes. Alors si l'homme, dans son éducation ou dans sa socialisation, a juste l'image que non, le travail à la maison c'est pour la femme, il y aura un conflit d'intérêts, parce que quand cette femme va vouloir aussi s'émanciper pour dire qu'elle a droit de travailler, l'homme va avoir un problème dans son schéma mental, parce qu'il va dire que cette femme-là ne va plus être, elle va être dénaturée. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que le fait que la femme va avoir une certaine liberté à aller travailler et à avoir de l'argent, ça va réduire l'autorité ou le pouvoir de l'homme. Alors ce sont des schémas totalement biaisés et dépassés par les événements.
Bien.
Et ce sont des violations, ce sont vraiment des violations qu'il faut déplorer.
Bien, merci à tous les internautes qui ont réagi. Il y a par exemple Parfait Honoré Mouabi depuis Demba qui nous dit que la justice doit être renforcée afin de punir sévèrement les auteurs des violences et conformément aux lois et à la constitution du pays. C'est là parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des arrangements à l'amiable, c'est-à-dire quand on attrape un violeur, la famille de l'auteur va vite dans celle de la victime, ils tiennent une alliance peut-être, donner des poules, des bidons d'huile et tant d'autres choses, et encore promettre le mariage. Voilà, c'est sa réaction par rapport à la masculinité positive. Richard de Kananga nous dit « Nous savons tous comment se comporte la jeunesse congolaise à ces jours, et surtout les comportements de certaines filles causent aussi l'augmentation de la masculinité positive, du fait que les filles veulent suivre et se conformer à la mode par des habillements sexistes, des films, des chansons, et c'est là pour certains jeunes hommes faibles d'esprit de tomber. » Bon, je pense qu'ils reviennent beaucoup plus sur les violences sexuelles. Votre réaction, Madame Pascaline?
Oui, on montre là par rapport à ces deux commentaires qu'il y a d'un côté quelqu'un qui a été sensibilisé, quelqu'un qui a eu accès à l'information, qui a compris l'importance de la masculinité positive. Et de l'autre côté, on montre qu'il y a encore cette insuffisance d'informations pour comprendre les concepts. Si vous voulez, pour atteindre le plein épanouissement sociétal ou bien social, il faut qu'on investisse et dans les hommes et dans les femmes. On ne pourra pas atteindre le développement si on pense qu'il n'y a qu'un seul acteur qui doit jouer un certain rôle à un certain niveau. La preuve, c'est qu'on est aujourd'hui, on sent que les hommes ne peuvent pas faire seuls. Peu importe le niveau. Et c'est pour cela que ces concepts de la masculinité positive pour renforcer encore cette notion de complémentarité et pour montrer qu'on ne peut pas décrier les violences basées sur les genres parce qu'on pense que ce sont celles les femmes qui sont victimes. Même les hommes sont aussi victimes de ces violences basées sur les genres, les violences de toutes formes. Peut-être pas parce qu'ils ont été abusés par les femmes, parce que ça arrive aussi que les femmes abusent des hommes, mais c'est parce que quand ils pensent qu'ils doivent nécessairement s'en tenir à leur rôle d'autorité, parfois ça ne marche pas toujours du côté des moyens. Moi, je vais donner un exemple. Il y a aujourd'hui des parents hommes parce qu'ils savent que si je n'arrive pas à donner de l'argent dans ma famille, je ne serai plus un homme. Et de la même manière, la femme pense aussi que l'homme, parce qu'il veut tenir à sa position d'autorité, c'est lui qui doit être le pourvoyeur. ça crée un problème quand chacun dans son rôle ne parvient pas à atteindre selon ce que les attributs que la société leur a donné. Alors, le concept même de la masculinité positive, ça, c'est pour soulager aussi l'homme qu'il quitte cette conception de la masculinité hégémonique, où il doit à tout prix s'imposer, imposer son caractère masculin. Et c'est de démontrer que les deux genres masculins et féminins doivent être vraiment dans une harmonie, ils doivent se compléter. Alors, ces concepts, c'est cette façon de penser que l'habillement de la femme ou des jeunes filles, ou bien la conformité ou le conformisme à la mode peut influencer les attitudes ou peut occasionner des violences sexuelles, c'est vraiment quelque chose n'est pas objectif, parce qu'on a vu dans certains coins où il y a un taux très élevé de violences sexuelles, et basé sur des gens d'ailleurs, ou surtout dans les milieux reculés où les femmes ne s'habillent pas conformément à la mode. C'est là que je dis, il y a un besoin vraiment d'aller en profondeur, un besoin permanent de sensibiliser et les hommes et les femmes. On a remarqué que dès le départ, beaucoup de sensibilisation était orientée chez la femme pour lui faire prendre conscience comment est-ce qu'elle est victime. Et comment est-ce que ça mettait aussi l'homme dans une mauvaise position, parce que tout était orienté chez lui, comme c'est lui l'auteur de tous les malheurs de la femme. Et ici, moi, je reviens toujours pour dire que même l'homme aussi, il est victime d'un système, parce qu'il est le produit de la socialisation. C'est la société, dans le temps, qui avait prévu ces attributs-là chez les hommes et la femme. Mais comme la culture est appelée à évoluer dans le temps et dans l'espace, nous devons donc procéder à des adaptations. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces programmes, notamment de formation, de sensibilisation, il y a tous ces concepts qu'on appelle la masculinité positive aujourd'hui.
Bien, on va accueillir Paul Mboula, éducateur à la vie. Paul Mboula, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour les auditeurs.
Alors, selon vous, comment promouvoir la masculinité positive?
Merci beaucoup. Tout a été dit autour de cette masculinité positive. Nous savons que ce qui est positif, c'est ce qui est constructif, c'est ce qui est épanouissant. Mais d'emblée des jeux, il faut se dire, homme ou femme, nous sommes les deux. Et par notre conception, il y a toujours une part de masculinité et de féminité dans chacun de nous, avec dominant. Et lorsque l'éducation a renforcé l'aspect masculin ou féminin, nous devons nous dire est-ce qu'elle a construit ça de manière à ce que ça soit exploité de manière positive ou non. Et le travail d'éducateur nous impose, en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'intervenants en matière d'éducation, de donner à l'enfant qui grandit, qui naît, qui grandit, le souci de cette complémentarité dont a parlé Madame Pascaline, mais aussi une vision, une acceptation de soi du côté de la femme, qui doit éviter de vivre dans un complexe vis-à-vis de l'autre qui a une dominance masculine. En même temps, aider le garçon à intérioriser des valeurs qui aident à utiliser son énergie sexuelle, non pas pour détruire, mais plutôt pour construire. Donc à tous les niveaux, nous devons insister pour que l'homme travaille pour son propre épanouissement, mais également l'épanouissement de l'autre, qui soit homologue ou qui soit de sexe contraire.
Bien, donc nous parlons de la masculinité positive. On va accueillir Madame Claudia qui nous appelle de Kananga. Bonjour Madame Claudia.
Nous restons au café service. Je vous appelle de Colésie.
Vous êtes plutôt à Colésie. Allez-y, on vous écoute.
Okay. Merci pour le choix du thème. Je pense que si certains hommes refusent d'envoyer leurs femmes travailler, et c'est à cause du comportement qu'affichent certaines femmes avec qui ils travaillent. Parce que de nos jours, la femme est devenue vraiment vile, hein. Elle est tombée trop bas. En commençant par son habillement, elle s'habille mal en présence des hommes, des autorités, même dans des raisons funèbres. On la voit là, avec des vêtements trop collants, des pantalons, en train de déposer des gerbes devant des autorités et des hommes. C'est pas vraiment une bonne chose. Je pense que les hommes aussi doivent beaucoup aider les femmes avec qui ils travaillent. Vous voyez une femme montrer des faiblesses, il faut la reprendre avec dureté, hein. Mais encore faudrait-il que l'homme soit aussi et du bon sens, parce que si ces derniers sont aussi dépourvus de sens, il ne peut que profiter des faiblesses de la femme pour abuser d'elle. Oui, les hommes ont vraiment encore un rôle à jouer pour aider les femmes. La femme est tombée trop bas.
Voilà, donc c'est... D'accord, merci beaucoup. Madame Pascaline, votre réaction.
Oui, je n'ai pas bien suivi malheureusement. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau. Je ne sais pas si c'était l'aider. Je viens à comprendre l'idée de
oui,
notre intervenant.
D'accord, madame Claudia de Colusi déplore le comportement de certaines femmes qui s'habillent très mal, même dans les deuils, les manifestations officielles, ils ont des vêtements moulants. Elle dit que bon, les hommes qui sont à côté peuvent aussi les aider à les redresser gentiment en leur disant non, c'est pas de cette façon qu'il faut s'habiller, essayer d'arranger de ces côtés-là.
Bon, c'est toujours bien d'évoquer la morale, mais on ne doit pas faire l'amalgame. C'est quand on parle de la masculinité positive ou de rôle, de partage de rôle de responsabilité dans la société, on ne peut pas évoquer nécessairement l'accoutrement. Parce que l'accoutrement, c'est quelque chose de très personnel. Même si vous voyez sur le plan culturel, nos propres coutumes, même ici en RDC, vous allez voir que nous avons des accoutrements différents et divergents. Tout dépend aussi de l'éducation de tout un chacun. Mais je trouve toujours que c'est un peu ça de l'amalgame d'évoquer que non, l'habillement de la femme peut être à l'origine, peut occasionner des viols ou des violences sexuelles ou peut occasionner ou c'est un facteur d'une certaine faiblesse de la part de la femme ou c'est un facteur provocateur des viols et des violences sexuelles. Et même si la femme, parce que dire que c'est mal ou bien, ça devient vraiment quelque chose de moralisateur. Et moi, je laisse à l'appréciation de tout un chacun parce que moi, j'ai toujours soutenu le fait de former l'homme, de former la personne humaine. Et la personne humaine doit savoir maintenant ce qui est bien et ce qui est mal pour elle-même. On ne peut pas tout généraliser à un certain moment, mais il faut se concentrer sur la formation de la personnalité. Au contraire, si dans une société, les hommes peuvent justifier les faits qu'ils peuvent être des auteurs de viols ou de violences sexuelles par le fait que les femmes s'habillent mal, c'est un indicateur que cette société-là est encore très loin en matière de lutte contre les violences ou en matière simplement de respect des droits humains. Parce que les hommes ne peuvent pas se comporter en prédateur et dire que non, on a fait ceci parce qu'il y a ceci. Parce qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si le fait que les femmes s'habillent mal est une infraction, alors qu'elles sont punies. Mais ce n'est pas aux hommes de punir les femmes parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont la punition leur infligée parce qu'ils s'habillent mal. Donc moi, je pense qu'il faut toujours qu'on évite de l'amalgame à ce qui concerne ces sujets-là, parce qu'il y a aussi un enjeu de la liberté qui intervient. On ne peut pas priver à la femme à la liberté ou à l'homme, bien qu'on sait qu'il y a des institutions qui sont chargées maintenant à donner de la morale, à aider par exemple les enfants à savoir quelles sont les valeurs qu'ils doivent préserver. Mais quand il s'agit de parler des droits des femmes, cette question d'accoutrement vient seulement encore embrouiller les schémas.
Bien, on va accueillir Jonas Kabinda de Kananga. Bonjour Jonas.
Bonjour mon frère Jody, merci une fois de plus pour la parole nous donner.
Bien, allez-y.
Oui, je voudrais dire à madame, c'est sûr que je l'entends beaucoup soutenir vraiment les côtés féminins. Mais il y a un auditeur qui m'a précédé qui a posé une bonne question. Aujourd'hui on parle surtout du viol et quand on parle du viol, on met ça sur le dos des hommes. Mais madame n'est-elle pas consciente de... aujourd'hui de l'éducation de la plupart des filles, pas toutes les filles, je dis bien de la plupart des filles. Aujourd'hui, c'est plutôt les femmes à un moment donné qui poussent les hommes à commettre ce qui est contraire à la loi. Parce que il y a des filles aujourd'hui, une fille de 10 ans, de 11 ans, 12 ans, qui sait déjà ce que c'est que rapport sexuel et qui fait ce qui est... Il pousse l'homme à tomber sur des filles. Il y a des gars, aujourd'hui, on accuse beaucoup les garçons de tomber sur les jeunes filles. Mais bon, c'est pourquoi je voudrais dire à madame, ce que nous pouvons faire, c'est peut-être, nous tenir main dans la main, renforcer l'éducation. Les mamans aujourd'hui ont du mal à parler des enfants, des filles, de la sexualité. Non, mais il faudrait qu'on revienne à la case du départ. Si aujourd'hui les mamans, puissent, ma madame qui est sur le plateau aussi, elle peut s'imaginer comment elle avait été éduquée. Aujourd'hui, nos mamans ont du mal à parler, comme je le disais tantôt, de parler aux enfants de l'éducation sexuelle. Non, il faudrait que nous parents, peut-être que nous prenions la chose à main, que nous parlions aux filles.
Mais Jonas, sexuelle. comment vous, en tant qu'homme, vous pouvez lutter aux côtés des femmes contre les violences?
Oui, moi en tant qu'homme, moi personnellement, lutter contre la violence, c'est-à-dire, quand moi, je le fais souvent, quand une fille s'est par exemple mal habillée, je l'interpelle, Tantine, regarde, ce que tu as fait ici, ta façon de te comporter, d'abord ça te déshonore. Et quand, voilà par exemple, tu as porté une jupe qui laisse transparaître tes parties intimes, ce n'est pas pour toi. Parce que quand l'homme voit ça, et à moins qu'il soit l'homme qui ne vient pas de Dieu, parce que tout homme qui vient de Dieu, quand il voit transparaître les parties génitales de la fille, de la femme, bon, il n'est pas à l'aise dans son intimité. Donc, on interpelle et puis on donne cette situation-là. Il y a des filles quand même qui comprennent ça et qui vous remercient. Mais il y en a pour d'autres qui vous trouvent un diable. Donc, il faudrait que nous puissions renforcer. Alors, la petite question que je vais poser à madame, il y a quelle différence alors entre la masculinité féminine, que dis-je
la masculinité positive.
Oui, oui, la masculinité positive et la parité.
Bien.
Et des deux. Pourquoi, quand bien même on donnerait tout pouvoir à la femme, voilà la femme, on dit, bon, voilà, c'est toi qui gères, c'est toi qui es responsable. Mais pourquoi la femme, dans toutes ses façons de réagir, on sent toujours une féminité? Est-ce que c'est pour dire que quand on a chassé il y a une adage qui dit chasser, pour moi, les loups, il reviendra au galop.
Chasser les naturels, il revient au galop.
Ah, bon, voilà, merci pour m'avoir prêté le mot. Chasser les naturels, il reviendra au galop.
Bien, bon, voilà, merci.
Madame, merci.
Patrick Oudaga nous a écrit depuis les Touris. Il dit la conférence était basée sur la masculinité positive. Je ne comprends pas pourquoi dans cette conférence les intervenants se sont plus penchés sur les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. L'homme s'est toujours positionné à côté de la femme comme partenaire actif et positif. Au stade actuel, avec tout ce qu'on a comme campagne sur le genre, la parité, les hommes acceptent de partager certaines responsabilités avec les femmes. Aujourd'hui, avec ce concept, j'entends encore l'intervenante aller jusqu'à parler des travaux de ménage qui doivent être effectués par les hommes. C'est quand même trop demandé. C'est une conférence qui paraît moins importante quant à son contenu. C'est la réaction de Patrick Oudaga depuis l'Itouri. Madame Pascaline.
Merci, Yodi, pour les questions. Je vais peut-être commencer par Monsieur Jonas. Pour revenir encore à cette question, pour dire que l'homme, ce n'est pas un animal. Il ne faut pas qu'il mette l'homme dans une situation d'un être irréfléchi, d'un être irrégimentaire qui réfléchit que par ses pulsions. Comme preuve, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un sauter sur une femme en pleine route parce qu'elle était mal habillée. Je n'ai jamais vu un viol qui se commet dans la rue, là-bas, parce que non, cette femme était mal habillée. Et puis, c'est pour cela que moi, je suis sautée sur elle. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc, on est tous les circonstances. Et souvent, c'est cet abus d'autorité, parce qu'on pense qu'on est un homme, on peut abuser de la femme n'a pas de liberté, et ça va même, ça touche même les enfants, et les petites filles, de 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai toujours posé la question, si c'est ta propre fille qui est mal habillée, est-ce que tu vas la violer? Tu vas sauter sur elle parce qu'elle est mal habillée. Je répète encore, tant qu'on sera dans ce schéma, de penser que parce qu'elle n'a pas son... La personne qui est mal habillée, on suppose que c'est elle qui n'a pas encore pris conscience. Alors, c'est lui qui veut aller vers la personne là, c'est dans l'objectif, c'est là que je soutiens ce qu'il a dit. Il faut conseiller, il faut moraliser, mais il ne faut pas condamner parce que non, l'habillement, il n'y a pas un lien de causalité. C'est ce qui cause une violence sexuelle dans ce cadre-là. Ça veut dire que l'homme n'a pas compris qu'il doit respecter la femme, il doit respecter son corps, il doit respecter la liberté du choix, il doit respecter la liberté de la femme à dire non pour un acte sexuel non consenti. C'est ça le vrai problème. Le problème, ce n'est pas l'habillement. Voilà. Et aussi, pour ce qui concerne la différence entre la masculinité positive et la parité, c'est vraiment deux concepts très différents. La parité, ça veut dire que c'est un droit. C'est un droit à un partage égal quand on se retrouve dans un système donné. Comme exemple, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, mais on peut prendre dans un système politique, par exemple, où on vous donne 2 ou 3 postes et les membres de votre parti politique, c'est eux qui établissent les critères pour dire qui va prendre tel poste, qui doit prendre tel poste. C'est là où la parité doit, doit s'appliquer. Ça, c'est un exemple de la parité. Mais là, la masculinité positive, c'est ce que j'ai vu, c'est un concept qui est créé pour permettre à ce que les hommes, les rôles de l'homme aux côtés de la femme soient positifs vis-à-vis des rapports sociaux qu'ils entretiennent. Que ça soit plus cet homme-là considéré comme un prédateur, que ça soit pas un homme qui est considéré comme celui qui écrase la femme, mais que ça soit quelqu'un qui se mette aux côtés de la femme pour qu'ils puissent avancer ensemble pour un épanouissement harmonieux de la société. Alors, pour le deuxième intervenant, je comprends sa réaction, c'est tout à fait normal, parce que là, il est encore dans ce schéma qui pense que non, la femme, c'est d'abord le ménage. Et c'est là que ça montre ce conflit d'intérêt où on prépare l'homme à travailler et on prépare la femme au mariage. Alors, ça crée déjà un problème. Alors que quand les enfants naissent, on dit tout ce qu'ils naissent, tous les êtres naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ça veut dire qu'on devait donner toutes les chances à l'homme et à la femme de s'épanouir dans la société. Et en aucun jour, on va dire que la femme va s'épanouir par le ménage. Non. Il a droit aussi d'étudier, il a le droit de travailler, il a le droit de se performer. Mais comment cela va se passer tant qu'il y a, elle a encore toute la charge émotionnelle de gérer la famille, de s'occuper de tout le monde. Alors ici, l'idée, ce n'est pas de dire que les femmes ne doivent pas faire le ménage, non. Le ménage, c'est très important pour la famille, pour la survie et tout ça. Mais on n'a pas dit qu'on a destiné cela à la femme, parce qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre que les femmes rencontrent beaucoup de difficultés à s'épanouir parce que cela constitue comme un blocage. Et il n'y a aucun mal à ce que l'homme participe au ménage. Et il y en a des hommes qui le font. Et ça ne change rien dans leur rôle, ça ne change rien dans leur considération. Donc, on ne peut pas parler de l'épanouissement de la femme au niveau professionnel, au niveau politique, comme lui l'a dit que les hommes ont déjà accepté. C'est là même aussi un autre problème, parce que les hommes n'ont rien à céder à la femme. Les droits, c'est pour tout le monde. Les droits, ce n'est pas pour les hommes, pour qu'ils acceptent de donner une partie à la femme. Je ne sais pas si il essaie de me comprendre. Ce que nous voulons combattre ici, c'est le fait que d'hommes ne soient pas égoïstes et qu'ils ne s'accaparent pas de tout le pouvoir en pensant que non, c'est pour moi d'abord, et si je dois donner, je choisis ce que je dois donner à la femme. Je lui donne, c'est des temps politiques, mais pour s'écouper ici, je ne lui donne pas. Non, non. On veut que juste l'homme comprenne qu'il ne doit pas être un élément pour étouffer le développement de la femme, et on veut positiver la présence de l'homme tel que ça a été destiné depuis l'univers, que l'homme et la femme sont des partenaires, ils doivent vivre et faire développer l'humanité, quoi.
Bien. Alors, Paul Mboula, de manière concrète, qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour jouer ces rôles positifs, accompagner la femme dans la lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre? Paul Mboula.
L'unité aux violences sexuelles, mais il n'en est pas que ça, parce que l'homme et la femme se rencontrent dans plusieurs et dans tous les domaines de la vie. On se dit que si l'homme est à côté de la femme et veulent construire ensemble, tous les deux doivent avoir la même considération de l'un et de l'autre, en termes d'égalité de droits et de devoirs. Mais comment négocier cette relation qui a déjà été entamée parce que nous sommes dans une société en transition? Quand on a soulevé la question de la dimanche, il est évident qu'aujourd'hui, notre société, particulièrement celle qui est congolaise, est entrée dans la mondialisation avec un style d'habillement qui n'est pas celle qui est universelle, qui n'est pas celle qui est d'emprunt, qui vient d'entrer dans notre culture, que nous découvrons sur les médias que nous pouvons rencontrer lorsque nous voyageons. À la fin de compte, nous avons, si on fait à quelque part de recul dans la société, il n'y avait pas l'accoutrement que nous avons aujourd'hui. On avait vu juste un cache-sexe chez la personne adulte, chez l'homme, chez la femme, mais qui n'avait pas entraîné les hommes ou les femmes à se violenter sexuellement. De cette manière, si nous avons aidé nos enfants à considérer, à regarder l'intimité de l'autre comme quelque chose de sacré et à protéger, on ne va pas s'attarder à ces petits détails de qui est habillé, bien habillé ou mal habillé. On se dit, on a une femme qui est devant moi, je la respecte, c'est pas ma femme. Comme je respecterai ma mère, comme je respecterai ma soeur, on ne voit pas des jeunes gens violenter leurs parents ou leurs soeurs parce qu'elles sont mal habillées. Donc, la première chose, c'est quand nous sommes en train d'élever la fille, c'est de lui dire qui est fille, accepte d'avoir des cookies et sache qu'en tant que fille, tu as beaucoup de potentialités que tu peux donner au monde. Comme tu es garçon, de la même manière que la fille, il faut s'accepter comme telle et savoir exploiter ce que tu as comme énergie propre à l'homme et que tu peux donner au monde pour avancer. Concrètement, je dis à mes enfants, bon, j'en ai assez qui spirituel comme par naissance, je leur dis toujours, écoutez, balayez pour que nous puissions tous sortir au même moment parce qu'on doit aller à l'école, soit au travail, mais il ne doit pas être l'apanage d'une fille ou d'un garçon. Bah, écoutez, si j'ai le temps et que on a un peu d'électricité et que l'on peut faire un peu de café, ça ne demande pas que ce soit un homme ou que ce soit une femme qui prépare ce café. Mais au-delà de ça, c'est quand on se retrouve dans la communauté, dans un emploi, par exemple, on est avec des collègues de l'autre. Comment se comporter? Est-ce qu'il faut les regarder comme objet de plaisir? C'est cette notion que la mondialisation a aussi amené aujourd'hui.
Paul Mboula, d'après les informations reçues, il y a des hommes qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, des machos, ils considèrent que surtout dans la région du Kasaï, le rôle de la femme, c'est de produire des enfants, de s'occuper du ménage, point barre, pas autre chose. Et ils acceptent difficilement de collaborer ou d'être dirigés par une femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Je n'aime pas indexer parce que je connais très bien le Kasaï et j'ai eu beaucoup de contacts avec des hommes galants. Et qui ont fait du pas et qui sont assez avancés. Mais ceux qui sont encore dans la tradition, c'est vrai, ils ont cette considération de la femme. Vous allez aussi remarquer que l'analphabétisme est à la base de beaucoup de retards dans beaucoup de points auxquels vous faites allusion. C'est vrai qu'on n'a pas aidé la fille à étudier. On prend la fille précocement au mariage, faites ce que vous voulez. C'est une fille qui ne voit qui se voit limitée au seul rôle de la maternité, au seul rôle d'épouse et de mère. Mais si la fille kasaïenne a étudié, elle a été bien élevée dans une famille où on lui a appris à utiliser et à produire, à utiliser ses potentialités, il y en a plein hein, dans tous les secteurs, dans la médecine, dans l'éducation, comme ailleurs, on retrouve des femmes kasaïennes épanouies. Parce qu'elles ont eu la chance d'avoir des parents qui se sont occupés d'elles et qui les ont mis dans des bonnes écoles où elles se sont débrouillées et même confrontées aux garçons. Et elles ont décelé ce qui fait que leur potentialité leur permet aujourd'hui d'être à l'aise quand elles se retrouvent en milieu d'hommes comme en milieu de femmes. Vous allez interroger les femmes entre elles quand elles se retrouvent. Elles n'ont pas toute la même considération de l'homme. Et elles ne se comportent pas nécessairement comme des poids pour les hommes. Il y en a qui, vraiment, je dis comme j'insiste, qui vous remettent à votre place quand vous osez, par exemple, dire, ils vous rappellent que vous êtes un collègue, vous n'êtes pas là pour abuser. Et aujourd'hui, la virilité a été abusée parce que le siècle passé, le 20e, je veux dire, a été le siècle où le sexe a été éminemment vanté. Dans toutes les publications, vous allez retrouver que sur le boulevard, il y a autant de panneaux où on a exposé la femme comme objet de publicité pour telle voiture, pour tel savon, pour tel objet. Mais aujourd'hui, on a compris que c'était un abus aussi. Un abus de croire que la femme n'est qu'un objet de plaisir. Il n'y a pas que l'aspect plaisant de la femme qui doit intéresser le monde. La femme est intelligente. La femme a aussi une dimension morale qu'elle doit soutenir. Et vous savez que quand on se retrouve au Congo, dans cette terre pleine, on est
on regarde l'habillement comme élément clé de détermination du comportement masculin. Mais là où il y a la mer, là où les gens peuvent se laver avec un sexe plus ou moins à découvert à la plage. Je dis, chers auditeurs, vous n'allez pas habiter d'une femme parce que vous l'avez vue nue en train de laver à la plage ou de se promener dans un jardin. Parce que on doit intérioriser une valeur, c'est de dire l'autre est une personne à respecter, l'autre a des droits, l'autre est protégé. Et la loi doit être assez rigoureuse, la justice doit trancher là-dessus. Parce que quand on se dit non, dans la société traditionnelle, c'est pas comme ça, lorsqu'on a engrossé une petite fille, il faut régler l'affaire à l'amiable, pourquoi est-ce qu'il faut aller en justice? C'est comme pour dire qu'on veut rester dans la tradition où les autres éléments de la culture ne sont pas pris en compte.
Bien.
Or, la culture est très déterminante
oui.
dans le comportement de la personne, parce qu'il faut y mettre dans l'intérieur de la personne les croyances et aussi des valeurs qui lui permettent de décider par rapport à l'environnement qui peut être excitant.
Bien, on va accueillir Soupi Nyembo de Kalima. Bonjour Soupi.
Bonjour monsieur, je dis bonjour aussi à nos deux invités. Moi j'ai un avis contraire à d'autres personnes, parce que la femme elle-même n'est pas convaincue de cette affaire-là ou de ce sujet-là. C'est pourquoi on trouve certaines femmes, moins de 18 ans, donc les mineurs, ou certains hôtels, ou certaines boîtes, en train de faire leurs bêtises, là, des débauches, des publicités, et suite de suite. Alors, pour moi, je vois que, même au début, dès le commencement, quand on lit même les écritures, on dit, la femme sera totalement ou complètement dominée par son nom, donc par l'homme. Alors, aujourd'hui, on voulait nous montrer, c'est comme un sujet de la parité de l'homme. Alors, aujourd'hui, la femme qui est dominée par l'homme, elle dépend, la femme dépend de l'homme. Tout ce qu'elle fait, elle dépend toujours de l'homme. Même les problèmes de mariage. Vous voyez, même si la femme a tous les atouts, elle a ses possibilités, ainsi de suite, mais c'est vous l'homme qui fera le tout pour l'avoir. Alors, si on veut maintenant vous égaliser, même sur les plans sociaux, pour moi, c'est un peu impossible parce que toujours la femme, elle dépend de l'homme. Pour l'égaliser maintenant avec l'homme, pour moi, je vois que c'est totalement impossible.
Non, on parle des hommes qui jouent un rôle positif aux côtés des femmes. Madame Pascaline Zamunda, votre réaction. Madame Pascaline?
Que l'autorité ou la soumission de la femme ne lui ôte pas ses droits, ne devrait pas être considérée comme un carton rouge qu'on lui impose, un veto pour qu'elle ne s'épanouisse pas. Non, l'objectif n'a créé personne pour ne pas jouir de ses droits. Peut-être la conception de l'autorité ou de la soumission. C'est pour besoin de l'harmonie, peut-être dans un foyer, mais ce n'est pas à généraliser. Ce n'est pas du tout à généraliser. Et la Bible, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on est au moins sûr, parce que il faut savoir que des études ont été faites pour élever que la Bible est porteur, comme aussi la religion. Elle est influencée par la culture. Et nous tous, nous savons que la culture juive est une culture qui n'est pas favorable à la femme, tout le monde le sait. C'est bien de faire la référence à la Bible, mais il faut savoir que même dans la même Bible, il y a beaucoup d'exemples qui publicitent la femme. Et Jésus lui-même, moi j'ai toujours dit, il a prêché par le leadership des services. Il a été au service, il n'a jamais été autoritaire. Alors, dès lors qu'on doit prendre la Bible comme référence, on ne doit pas se mal apprendre dans le sens où on favorise l'homme et surtout dans le mal. Parce qu'on n'a jamais donné à l'homme l'autorité pour abuser de la femme. Alors ici, ce que nous dénonçons, ce que nous déplorons, c'est le fait que l'homme utilise mal son autorité vis-à-vis de la femme. Et quand il sait très bien, il y a des couples qui évoluent très bien. On ne va pas dire que dans tous les couples, il y a un problème de soumission, il y a un problème d'autorité. Non. ce que nous déplorons ici, c'est le fait que la femme ne doit pas être laissée de côté au nom, au motif qu'on a dit que l'homme doit être son chef, l'homme doit la commander. Il faut qu'il soit maintenant un bon homme. L'homme de la masculinité positive, ça doit être un bon homme. Un homme qui se met à la place de l'autre et qui le favorise et qui l'aide à s'épanouir comme lui-même il veut que cela soit fait pour lui.
Donc, c'est alors, Madame Pascaline,
qu'il faut relever.
Madame Pascaline, pour promouvoir la masculinité positive dans la société, qu'est-ce qu'il faut? Faut-il en parler à l'école? Est-ce qu'il faut des campagnes,
exactement,
de sensibilisation,
oui,
etc.?
Il faut maximiser la sensibilisation. Il faut vraiment sensibiliser beaucoup sur les droits des enfants. Aujourd'hui, on a toute une loi qui parle sur les droits des enfants et avec des innovations pour montrer ce qui n'était pas fait avant, les faits que les enfants-filles pouvaient être pénalisés dans certains aspects de leur éducation. Mais aujourd'hui, on montre comment est-ce qu'il ne doit pas y avoir de différence dans l'éducation. Et cette loi doit être vulgarisée. On doit essayer de s'assurer que tous les enfants, tous les parents ont l'information nécessaire, peu importe les catégories. Et c'est ça le vrai défi que nous rencontrons aujourd'hui. L'information n'est pas suffisamment donnée. Et c'est ça, ce n'est pas de façon permanente. Souvent, on attend des moments clés pour donner quelques informations et puis ça disparaît. Alors que vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis même de l'analphabétisme dont monsieur a évoqué là, vous voyez que les gens n'ont pas d'information. Et alors que l'information, on dit que l'information change tout. L'information change les regards, l'information change l'attitude. Moi, je parle comme ça, c'est parce que je suis informée. Alors, il faut savoir que s'il y a encore des gens qui réagissent farouchement, parce que cela semble étrange pour eux. Et une fois qu'ils sont exposés à cette information-là, vous voyez que ça peut changer les vies. Il y a des bons exemples. Il y a ce qu'on appelle des success stories où les hommes eux-mêmes ils disent qu'ils étaient les plus machos que tous les hommes, mais ils sont parvenus à changer. Donc, il faut non seulement agir sur l'information, mais aussi, c'est un grand signal de voir que ce sont les chefs d'État qui se réunissent aujourd'hui. Ça veut dire que cela devient une priorité. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience de ça. Et là, ça montre qu'au niveau de la prise de décision, au niveau de la loi, il faut aussi agir pour rendre encore cela accessible, pour qu'il y ait plus de mesures d'application de certaines lois, notamment sur les droits de la femme. On parle de la loi de la parité, on parle de la vulgarisation du code de la famille. Et au niveau de la communauté, il faut qu'on ait des cadres qui permettent à ce qu'il y ait des échanges entre les hommes et les femmes. Les églises doivent jouer un rôle clé. Parce que, évidemment, comme vous le savez, c'est vraiment l'option finale, c'est de recourir que Dieu a dit ceci. Alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'interprétations derrière ce que Dieu a dit. Alors, il y a beaucoup, beaucoup à faire, mais je suis quand même contente et satisfaite du fait qu'il y ait quand même une prise de conscience au niveau des institutions, notamment au niveau de l'institution présidente de la République, pour montrer l'exemple. Et nous espérons que cela ne va pas seulement rester au niveau des recommandations, mais cela va être implémenté sous forme de loi, sous forme de décisions qui vont atteindre jusqu'aux dernières couches de la population.
Bien, merci Madame Pascaline Zamunda. Je rappelle que vous êtes activiste des droits de la femme. Nous disons également merci à Monsieur Paul Mboula, éducateur à la vie. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup,
Jodie.
Merci.
Radio Okapi.
Alissa Lah.
Merci.
Sur 93 FM.
Okapi.
Hey, c'est comme les mains.
Le long.
Mesdames et messieurs, c'est par ici qui s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Marcel Ngombo a assuré la coordination. Tati Mapuku était à la réalisation. Mimi Kindou à la mise en onde au micro. Jeudi Daniel Kachama, tout le plaisir a été pour nous de vous servir et se brancher sur la fréquence de la paix. Et à la prochaine.